Bonjour à tous, bienvenue. Je viens de très loin, je viens du pays d'à côté, la France, pour vous parler de développement d'applications Windows 8 pour le Windows Store en utilisant les technologies HTML5, JavaScript et CSS3. Vous avez vu pendant le keynote pas mal de démonstrations autour de XAML. On va voir certains des concepts similaires autour de JavaScript cette fois-ci. Qui est développeur XAML dans la salle? Donc, il y a des curieux qui viennent voir comment faire dans l'autre techno. Et qui est développeur JavaScript plutôt? Du coup, on n'a pas toute la salle avec les deux. Qui est développeur C++? Les autres sont C++? D'accord. C'est pas beaucoup. Bon, il y en a, il fait tout là. Il vous fera du DirectX après. Donc, vous pouvez aller sur mon blog. Pas mal de choses que je vais vous montrer sur mon blog et venir me poser des questions sur Twitter, @Davrous. Moi, je suis cohérent. Donc, c'est Davrous mon Twitter, Davrous mon blog et mon adresse email, davrous@microsoft.com. Alors, c'est parti. Ce qu'on va voir pendant 1 heure, c'est une présentation du modèle de développement autour de HTML5 pendant à peu près 15 minutes de slides. Donc, je vous ai embêté pendant 15 minutes avec certains slides. Et ensuite, on va voir que du code pendant 45 minutes. Parce que c'est ça qui nous intéresse le plus en général, nous les développeurs. Donc HTML5 et Windows 8, on va regarder un peu comment ça fonctionne, puisque j'entends des fois des choses pas toujours consistantes dans les forums. Ce slide-là est le slide le plus important à connaître. J'imagine que vous l'avez déjà vu, j'espère. Il indique qu'on a donc notre nouveau noyau Windows 8. Vous l'avez certainement vu si vous l'avez déjà installé ou testé. On a pas mal revu le noyau en termes de performance pour viser les nouvelles plateformes mobiles. Donc, en général, sur certaines applications, nous, sur certains éditeurs en France, on s'est aperçu que les gens, en faisant rien du tout, côté desktop, gagnaient entre 10 et 15% de performance en plus grâce à l'optimisation qu'on avait fait sur le noyau. Donc, vous avez du coup deux mondes que vous connaissez maintenant, qui est le monde desktop. Ça, c'est toutes vos applications existantes en .NET, WPF, Silverlight, C++. Ou dans votre navigateur préféré, bah moi j'ai mis Internet Explorer bien évidemment, continue de tourner dans ce monde desktop. Donc ça ne change pas. Donc si vous êtes en entreprise et que vous pensez que vous avez une application type Line of Business, elle continue de tourner dans le monde desktop sur les plateformes Intel x86. De l'autre côté, on a les applications dites métro. Alors maintenant, on utilise le terme Windows Store A parce qu'on ne dit plus métro, on dit le design, le langage de design Microsoft, c'est le terme définitif. Mais on a ces API WinRT qui sont extrêmement importantes. Ces API WinRT sont disponibles, que vous soyez développeur C++, C-Sharp, JavaScript, avec la même performance. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, quand on fait une application Windows 8, vous devez pas trop réfléchir, sauf si vous faites du jeu en 3D ou des applications vraiment extrêmement intensives qui font du traitement d'image, vous allez naturellement vous diriger vers C++. Mais on va dire pour 90K, pour 10% des cas, vous ne choisissez pas sur le langage, mais plutôt sur vos compétences. Vous êtes développeur plutôt web, vous aimez plutôt JavaScript, CSS, faites du HTML, vous venez de Silverlight, WPF, faites du C-Sharp, XAML, mais au final, on va tous utiliser les mêmes API avec le même niveau de performance. Donc aujourd'hui, nous, on va regarder cette partie-là. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que tout ce qui fonctionne dans iOS 10, côté desktop ou le navigateur immersif, c'est la même techno qui est utilisée pour héberger les applications Windows 8. Donc c'est le même moteur de rendu, le même moteur JavaScript. Vous savez que le JavaScript est désormais compilé à la volée en code natif. Donc quand vous faites une application Windows 8, que vous le soumettez au niveau du store, le code est compilé, vous avez des performances très très bonnes, même si vous faites du JavaScript. Donc ce fameux modèle WinRT, en fait, ce que vous allez devoir apprendre lorsque vous venez du monde du web, c'est pas tellement CSS, 3, HTML5 que vous connaissez certainement déjà, c'est plutôt ce nouveau jeu d'API, dans certains cas pour adresser à la caméra, comme on va le voir à la fin, comment on va faire tout ça. Donc on va commencer par parler un petit peu d'iOS 10, puisque c'est lui le cœur d'exécution finalement de nos applications Windows 8. iOS 10, il y a plein de trucs. C'est-à-dire qu'avant, on nous disait Internet Explorer, c'est toujours le dernier, respecte pas les standards, etc. On a notre mauvaise image qui vient d'iOS 6, qui est méritée, hein, puisqu'on n'a rien foutu entre iOS 6 et jusqu'à un pas mal de temps. Là, entre iOS 9 et iOS 10, on est vraiment revenu sur les standards. Et iOS 10, le retour des développeurs web que je rencontre, est vraiment très bien. Et il implémente plein de choses. Alors j'en ai mis certains en exergue, puisque c'est ceux qui sont souvent utilisés dans les applications Windows 8. On a un nouveau grid alignment qu'on va voir ensemble, qui est extrêmement important dans les applications Windows 8. Donc c'est une spécification qu'on a soumise au W3C. Les animations, les transitions, le support de Media Queries, le multicolonne, SVG, plus plein d'autres trucs qui vous parlent ou pas en fonction de votre niveau de connaissance HTML5. Donc ça dépend où est-ce que vous en êtes arrivé. Aujourd'hui, on a quasiment tout le support de HTML5 et CSS3 dans IE 10 et donc dans les applications Windows 8. Donc ça, c'est plutôt pour la partie affichage. En termes applicatifs, ce qu'on peut faire, c'est que déjà le langage, c'est ECMAScript 5. Donc c'est la norme JavaScript, la dernière actuelle. Et on a pas mal de choses. On a une base de données côté client qui s'appelle IndexedDB, donc qu'on peut utiliser également dans les applications Windows 8. Le support de WebSocket, si vous voulez faire de la communication de temps réel plutôt que faire du long pooling, vous pouvez établir une socket avec un serveur. Donc là, on peut imaginer des scénarios d'un temps réel. Il y a des jeux qui l'utilisent pour faire des jeux multijoueurs, ce genre de choses. Et on a le support du touch qui est extrêmement important. Plus plein d'autres trucs, on va pas rentrer dedans. C'est pas le but de cette session. Donc on va voir quelques applications faites en HTML5 pour vous donner un ordre d'idée. Alors je vais vous montrer celle que j'aime bien. On va commencer puisque on n'est pas encore trop près de midi, donc vous ne devriez pas encore avoir trop faim. Celle-là, elle est assez fatale en général qu'on la montre, qui est Marmiton. Donc c'est une application écrite en HTML5 qui utilise certains des contrôles. Vous voyez là ici, je peux faire du touch. C'est le flip view que vous avez vu tout à l'heure en keynote, bah c'est le flip view mais version JavaScript. Et ce qui est intéressant de noter sur ces contrôles, c'est qu'ils marchent au touch sur cette machine là qui supporte le touch, mais également à la souris. C'est-à-dire que si j'approche ma souris ici, vous voyez, ça marche avec les deux. C'est-à-dire qu'on vous propose des contrôles qui marchent à chaque fois clavier, souris et touch. Ça, c'est extrêmement important pour soumettre une application sur le store. Vous ne pouvez pas supporter que l'un des deux. Il faut supporter les deux environnements. C'est hors de question que quelqu'un qui n'a pas voulu gratter 50 ou 100 euros pour s'acheter une machine Windows 8 sans touch ne puisse pas utiliser votre application parce que vous l'avez puni quelque part. Donc ça marche très bien avec ces contrôles-là. Et vous avez également ensuite le support de tout ce que vous connaissez avec le partage que vous avez tout à l'heure. Je peux le partager, envoyer à ma femme, chérie, quand je rentre ce soir de Suisse, prépare-moi un caviar d'aubergine, ton macho de mari, bisous. Et ça marche pas bien en général. Évitez de faire ça, il y a peu de chances que vous ayez la recette de fait, hein. Alors une autre application que moi que j'aime bien, c'est Larousse, un dictionnaire qui est chez nous. Il faudrait que je re-switch mon clavier en anglais. Pareil, pour vous donner une ordre d'idée des designs qu'on peut faire, donc ça c'est du design entièrement en CSS3. Donc malgré le langage de design Microsoft, vous n'êtes pas obligé d'avoir toujours le même structure. On nous dit souvent c'est une prison, métro, je suis obligé de faire toujours d'avoir le même look and feel. Ce qui n'est pas vrai, si vous travaillez avec des designers, donc on a pas mal de designers, on travaille avec eux en France, vous pouvez suivre nos recommandations au maximum, mais vous pouvez quand même trouver votre moyen d'expression. Donc ça, c'est la gestion d'un dictionnaire. Donc, vous avez l'Atlas, et ce que j'aime bien, c'est qu'il gère bien également le support du mode STAP. Ici, vous avez vu, il rechange la présentation de l'information. Ça, on va voir que ça se fait à travers des notions de media queries. Et si je remets en plein écran, j'ai toujours cette application qui est très jolie. Et puis vous avez vu, j'ai pas de problème de fluidité parce que c'est du HTML5 ou CSS3. C'est accéléré matériellement par la plateforme. Donc vous ne posez pas des questions de j'ai peur de la performance. Posez-vous plutôt la question de c'est quoi que je maîtrise aujourd'hui dans mon équipe. Si j'ai des gens qui sont très bons en CSS3 pour faire du layout CSS3, vous allez les utiliser. Cette application, elle est intéressante parce que elle est quasiment entièrement écrite en JavaScript, HTML5 et CSS3, sauf une petite partie qui est écrite en C Sharp. Pour discuter avec le dictionnaire, parce que les développeurs qui faisaient l'accès aux chaînes de caractères, ça les saoulait de faire tout en JavaScript. Rien ne vous empêche d'avoir une partie de votre équipe qui crée la logique en C Sharp et de réutiliser ce composant avec des gens. Souvent, dans le monde du web, les gens sont quand même assez doués pour faire des très très beaux layouts. Donc, on mixe les compétences. Bon, pour finir, comme il y a mon collègue qui est dans la salle et que c'est mon chef désormais, je montre l'application qu'il a soumise dans le store. Voilà, qui écrit également en HTML5. Et vous pouvez aller sur son blog pour refaire toute la même application. Alors c'est un fanat des cartes magiques. Alors je sais pas s'il y a des fanats de cartes magiques dans la salle. Qui est fanat de cartes magiques? Ah, il y a toujours des gens, je suis toujours surpris. Mais il a pas mal de téléchargements. T'en as combien? 10 000, c'est ça? 10 000 téléchargements de ce truc-là. Avec tout le respect que je te dois, chef. Donc ce qu'il fait en fait, c'est qu'il va chercher des cartes en ligne. Il les présente comme ça, vous voyez. Donc pareil, on a une très bonne fluidité. Et on peut naviguer de carte en carte si je clique sur celle-là. Pour aller de page en page et voir les cartes que je préfère, les partager par share, etc. Cette application, on l'utilise quasiment tout, voire tout de Windows 8. La recherche des cartes, le contrat de partage. Et vous allez sur le blog de David, je vous donnerai l'URL à la fin et vous pourrez la reconstruire. Alors ce qui est marrant dans cette application, c'est qu'elle gère également le contrat File Picker. Je crois pas que vous l'ayez vu encore. Donc si je crée un nouveau mail ici, je peux attacher une image, une pièce jointe. Et par défaut, bon là, du coup, à chaque fois... Par défaut, vous arrivez là-dessus, qui est le file picker normal. Et là, rien ne vous empêche de récupérer une application déjà installée, qui est celle de David. Elle va se charger, et je vais pouvoir aller prendre une carte, celle-ci par exemple, la joindre. Et vous avez vu, en fait, pour l'application, c'est transparent. Elle a juste demandé au système, donne-moi un fichier. En fait, j'ai été interrogé une application en HTML5 qui me fournit un fichier. Donc ça, vous pouvez le récupérer sur le Windows Store, et il y a un ensemble d'articles qui vous permettent de la reconstruire de zéro, en une semaine. C'est la série s'appelle « Faites une application en une semaine ». Alors, pour Windows 8, qu'est-ce qu'on a vu en fait? Il y a une partie qu'on a commencé à voir, c'est qu'on utilise un framework qui s'appelle WinJS. Si vous êtes développeur JavaScript, vous pouvez réutiliser des librairies que vous connaissez déjà, comme peut-être jQuery ou ce genre de librairie. Nous, on a notre librairie JavaScript pour Windows 8. Quel est l'avantage pour vous de l'utiliser? Vous avez vu le contrôle tout à l'heure FlipView, qui supporte à la fois le touch clavier-souris, est fourni par WinJS. C'est-à-dire qu'on va vous aider à gérer la double interaction, les différentes résolutions. On a plein de résolutions différentes qui vont arriver sur le marché. Comment je gère le scaling de tous mes éléments, de distribution de mes contrôles? Les contrôles WinJS sont prévus pour ça. Donc, ils implémentent le Microsoft Design Language, et ça va vous permettre de gagner du temps. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, si jamais vous voulez utiliser le synchro-syn HTML5 pour son côté universel. Par contre, vous allez vous taper vous-même toutes les vues et le support du touch. Ça peut être du boulot. Donc gardez ça en tête. Nous, ce qu'on a certains clients, c'est qu'ils ont fait le maximum de code JavaScript qui était indépendant de la plateforme. Ça, c'est possible. C'est le même JavaScript partout, que ce soit sur un iPad, un Android, dans le navigateur ou dans Windows 8. Par contre, les vues, souvent, il faut les retravailler. Donc on a certaines personnes qui ont du code commun pour la plupart, et par contre ils ont utilisé juste WinJS pour la partie vue. Donc dans WinJS, il y a pas mal de choses, on va le voir en démonstration. Il y a un framework de data binding, si vous venez du monde XAML, vous allez voir, ça ne va pas vous choquer. Un moteur d'animation, il y a pas mal de helpers, un framework de navigation. Il y a des styles CSS fournis par défaut, et il y a des contrôles. Donc il y a les contrôles classiques, ceux-là qu'on vous propose, qui sont ceux en fait souvent qui viennent aussi du monde IE10. Et s'ils vous plaisent pas, bah vous savez que la façon de redesigner les contrôles en HTML5, c'est d'utiliser CSS et de soit les améliorer, soit les modifier en fonction de vos capacités de design. Donc ce qu'on voit ici, c'est que le slider, par exemple, moi je trouve qu'il a été amélioré. J'aurais jamais été capable de faire ça. D'où l'intérêt de travailler avec ces fameux designers qui eux ont l'habitude de faire du CSS et vont vous faire des choses plus ou moins jolies. Voilà. Donc j'ai fini les slides. Donc maintenant, on va faire du code en partant de zéro. Donc vous lancez Visual Studio 2012. Moi, j'ai la version Ultimate parce que je ne paye pas les outils chez Microsoft. Mais vous pouvez télécharger la version Express qui est gratuite. On va charger un petit outil de Zoom. J'ai pas eu le temps de le charger. Hop, Zoomit. Et là, ce que vous voyez, c'est que vous avez un template de projet JavaScript ici qui permet de faire du Windows Store. Il y a, comme d'habitude, un ensemble de templates de projets par défaut qui vous aident d'avoir le look and feel classique. Typiquement, la grille d'application. Il y a beaucoup de gens qui partent de ce template-là pour faire des applications Windows 8. Moi, je déconseille, si vous démarrez le développement, d'aller directement là-dedans parce qu'il y a toutes nos notions dedans. Et moi, j'ai fait le test qu'on a commencé il y a un peu plus d'un an à faire du Windows 8. J'avoue être un peu perdu au début, alors que je venais du monde du web. Donc il faut apprendre à décomposer tout ce qu'il y a à l'intérieur, et ensuite peut-être de temps en temps aller voir comment on l'a fait, sinon vous risquez peut-être d'être perdu. Alors vous serez peut-être plus fort que moi et vous appropriez directement le template, mais on va plutôt partir de zéro et essayer de comprendre comment ça marche. Donc on va l'appeler TechDez, je vais repasser en anglais, hop, TechDez Suisse. Et on va créer une application de zéro qui va se connecter à un flux RSS et qui va présenter des articles de blog. Alors pour ce faire, on commence par l'article partie HTML. On voit qu'on a une référence ici à ce fameux framework WinJS qui se trouve ici. Comme c'est du JavaScript et du CSS, rien ne vous empêche d'aller voir le code source du framework WinJS et voir comment il a été fait. Donc vous avez accès au code source, il n'y a pas de magie là-dedans, vous avez accès au CSS. Bon, la plupart du temps, vous n'allez pas le voir, hein, parce, à moins de vouloir faire des contrôles qui ressemblent à notre fonctionnement et de voir comment on a créé nos contrôles, la plupart du temps, on ne va pas le voir. Et il y a des feuilles de style par défaut qui sont positionnées. Donc là, il me dit, tu vas mettre le contenu ici. Et en fait, mon premier contenu, c'est celui-là. Je vais avoir un div principal qui sera mon conteneur de haut niveau. Là, on peut voir qu'on peut utiliser du tag sémantique HTML5, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est du HTML5 classique. Je vais avoir un header où j'aurai un bouton de navigation retour et le titre « Bienvenue sur Channel 9 » et une section qui contiendra le contenu de mes articles en lui-même. Donc ça, c'est le HTML, par défaut, brut de fonderie. Comment le structurer? On le structure avec du CSS, ici. Et là, vous voyez la notion de media queries. Alors, qui connaît les media queries dans la salle? Pas trop de personnes quand même. L'idée des media queries, c'est de réagir à la résolution, en fait. À l'origine, dans le navigateur, si vous allez sur un site web qui s'appelle mediaquery.es, ils aiment bien faire ce genre de truc. Vous voyez que le site, par exemple, j'en prends un au hasard, hein, site de l'ISO, ça ne fait pas forcément rêver, mais si je redimensionne la page, logiquement, on devrait avoir les éléments. Voilà, vous avez vu, il rajoute un menu sur le côté, il change la structure de la page en fonction de ma résolution. Ça se fait avec des media queries, c'est-à-dire que quand j'arrive sur un plancher particulier de résolution, j'applique des blocs de CSS différents. Du coup, j'ai toujours le même HTML, mais c'est bien CSS qui s'occupe de changer le layout en fonction des différentes choses. Par exemple, on peut réagir également à la rotation. Vous voyez bien que là, j'ai soit landscape, soit le portrait. Donc, je peux gérer qu'est-ce que je fais quand je vais tourner ma tablette, quel bloc de CSS je vais appliquer pour changer le layout. Ça se fait par CSS. Donc, vous devez travailler souvent avec des intégrateurs ou des designers, parce que nous, les développeurs, on n'est pas toujours les plus doués sur le layout, et ils vont travailler dans cette partie-là. Sachant que dans Windows 8, vous l'avez vu, il y a différentes vues. Il y a cette fameuse vue, là, si je relance Marmiton, par exemple, qui est la vue Snap. Et ensuite, s'il y a d'autres applications, je vais prendre l'application de David ici, ce qu'on appelle la vue Fill. Vous êtes obligé de supporter trois vues pour aller dans le store, la vue Snap, la vue Fill qui est ici, qui est en gros le reste de l'écran, et bien sûr la vue plein écran. Vous n'êtes pas obligé de supporter par contre la vue portrait. On ne vous l'oblige pas, vous pouvez le bloquer. Donc vous pouvez dire à votre application, quand l'utilisateur tourne sa tablette, tu continues de lui afficher la vue landscape, comme sur un iPad si vous connaissez, vous avez déjà vu ce genre de notion. Donc ça, là, où est-ce que ça gère au niveau du code? C'est sur les media queries. Donc nous, dans la démo, on va faire simple. On va faire que la partie full screen. Et en fait, je reprends via des sélecteurs les IDs. Je vais mettre pas mal d'éléments en 100%. Et j'ai fini. Donc si je fais F5 ici, il me lance mon application. Voilà, pour l'instant, rien n'est structuré. Donc on va devoir le structurer, le design. Vous avez deux choix pour structurer le design. Vous savez certainement que les designers, les gens qui font du CSS, n'utilisent jamais Visual Studio, ils utilisent Notepad++ et tout à la mimine, ils font les trucs. Bon, l'idée, c'est de vous montrer qu'on a quand même bossé pour augmenter la productivité. On a un outil qui s'appelle Blend, pareil, qui est livré quand vous installez Visual Studio 2012 Express. Et lui, il est capable de vous aider à structurer le layout de manière assez sympa. Et donc, on va voir des nouvelles propriétés. Donc là, je vais aller sur le main, qui est mon conteneur principal, et je vais vouloir créer deux lignes, une seule colonne. Et dans la première ligne, je vais vouloir créer deux colonnes pour structurer mon layout et mettre les éléments au bon endroit. Ça a l'air tout bête, ce truc-là, quand vous faites du XAML. En CSS, c'était un cauchemar de faire des tableaux, des layouts sous forme de tableaux. Désormais, on a une nouvelle propriété qui s'appelle le grid layout, donc qui était soumis par Microsoft, qui est supporté par iOS 10. Donc vous changez le display ici en grid. Et là, ça veut dire que je peux définir une grille maintenant à l'intérieur de ce truc-là. Et cette grille, elle va avoir une seule colonne qui va prendre toute la largeur. Et la façon dont on discute, on ne parle pas en pixels. Parce que si vous fixez un nombre de pixels, parce que vous avez une tablette qui fait 1366, imaginons qu'on charge sur un écran maintenant qui fait 2500, ça ne va pas le faire. Donc il faut raisonner en termes de fluidité, donc souvent de manière proportionnelle par rapport à la résolution finale. Donc il ne faut pas travailler une résolution fixe. Ça se fait avec des notions de fraction. Donc là, je prends toute la largeur de l'écran disponible. Ensuite, je vais faire deux lignes, une de 132 pixels de haut et une qui va prendre le reste de la hauteur de la résolution, quelle que soit la résolution. Donc là, on voit que le layout commence à se structurer. Qu'est-ce que je fais ensuite? Il faut que je distille les éléments au bon endroit. Bah, lui, je vais le mettre dans la première ligne. Alors ça se fait en mettant ici row 1. Voilà, donc c'est assez simple. Et lui, je vais le mettre dans la deuxième ligne. Et donc, row 2. C'est super simple. Pour ceux qui ont fait du CSS, vous allez voir. Et un autre truc qui est bien, c'est que du coup, ça, je vais pouvoir créer une grille dans une grille. Donc pareil, je change le display en MS Grid. Là, je lui dis que cette fois-ci, je vais avoir deux colonnes, une de 120 pixels de large, et une qui va prendre le reste de la largeur disponible. Alors, le 120 pixels, je ne sors pas de n'importe où, hein, c'est les guidelines métro. Quand vous créez des templates de projet grid, vous avez déjà tous ces layouts structurés. C'est juste pour vous montrer en partant de zéro comment ça a été créé. Donc là, vous voyez, j'ai un truc de 120 pixels et la ligne, elle va prendre toute la hauteur, 1 FR. Donc maintenant, le bouton main, enfin le main title, je vais le mettre dans la deuxième colonne, du coup, pour qu'il soit au bon endroit. Donc je tape 2 ici. Et un truc qui est incroyable, vous allez voir, c'est que si je veux l'aligner, le centrer verticalement, j'ai une propriété, row align center. Pareil, ça, vous pouvez galérer pendant des heures quand vous faites du CSS classique pour aligner tous ces trucs-là au bon endroit. Donc la spécification est assez puissante. On va mettre le bouton back, ça vous pouvez faire toujours à l'ancienne, hein, c'est-à-dire que vous travaillez sur les marges. Donc je sais pas, à vue d'œil, je pense que pour le centré, ce serait pas mal qu'il soit 54 pixels du haut et 40 pixels par rapport à la gauche. J'ai de la chance, ça tombe bien. Non, je ne connais pas par cœur les valeurs, ça n'a rien à voir. Donc on va sauvegarder tout ça. On va retourner dans Visual Studio. La Visual Studio va vous dire, fais gaffe, il y a un designer qui a touché peut-être au projet. Moi, je serais toi, je ferais gaffe. Donc peut-être, j'espère qu'il n'a pas touché au code. Je fais, non, c'est bon, il a touché qu'au CSS. Bon, il aurait pu faire ça dans Visual Studio, mais l'idée, c'est de vous aider. Vous avez vu, ça fait du CSS propre. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Front Page ou Dreamweaver qui crée de la soupe. Hein. Les gens qui ont fait Blend 5 l'ont créé de manière à faire des trucs propres. Du coup, c'est plus lié à destination des intégrateurs qui maîtrisent tout ça. Voilà, tout ça pour faire ça. Maintenant, dans le centre ici, on va mettre les articles de blog. Alors, pour faire ça, il faut un emplacement dans la section. On va prendre un div et on va l'appeler la liste de mes articles, article list. La manière de transformer ce bête div en un futur contrôle WinJS, il faut lui donner un attribut. Et c'est là qu'on va rentrer dans du code un peu plus spécifique à Windows 8. Vous faites data-wincontrol égale, et là il vous dit voilà l'ensemble des contrôles que WinJS te propose. On va utiliser la liste view qui correspond à la grid view que vous avez vue tout à l'heure en plénière. Hop. Et là en fait ce que j'indique au moteur c'est que ce div-là, je veux que tu le transformes plus tard en un contrôle WinJS. À quel moment il va le faire? Il va le faire quand je vais aller dans le code JavaScript, et il y a une ligne de code magique que vous ne devez jamais enlever, qui est cette ligne-là. WinJS.UI.processAll, que fait cette ligne-là? Elle va voir l'arbre en mémoire, le DOM avec tous les éléments HTML, tous ceux qui ont été tagués par data-wincontrol, et elle va les transformer en contrôle réel JavaScript. Par exemple, le FlipView, elle va vous rajouter le support du touch, la navigation au clavier, etc. Si vous enlevez cette ligne-là, vous n'avez plus que des divs tout bêtes. Donc, vous pouvez tester pour vous amuser. Sachant que tout est asynchrone dans Windows 8, je crois qu'on vous en a parlé dans la plénière, tout ce qui prend potentiellement plus que de 50 millisecondes, on vous force à être asynchrone. Jusqu'à présent, on vous laissait la possibilité de faire du code synchrone ou asynchrone en disant c'est mieux de faire de l'asynchrone, c'est mieux d'utiliser les multiprocesseurs en faisant de la TPL et ce genre de choses. Et bien évidemment, on est tous feignants, personne ne le faisait, on faisait dans le thread principal et ça ramait. Donc là, on ne vous laisse plus le choix, mais vous allez voir que ce n'est pas trop compliqué pour le faire. Donc, maintenant que j'ai mon arbre en mémoire qui est construit, ben il me faut un peu de code pour aller chercher les données sur ChannelLine. Donc pour ça, j'ai une fonction que j'appelle XHR, voilà, ici, qui va faire une requête XHR. Mais avant de faire ça, j'ai besoin de données en mémoire que je vais préparer, qui est ici. Donc ça, je vais le déclarer au niveau du scope global de ma fonction. Je ne sais pas si vous avez remarqué les développeurs JavaScript, mais on utilise dans les templates des patterns de développement propres. Alors pour ceux qui font les curieux, qui viennent du monde C++ ou C Sharp, on n'est pas obligé d'écrire du code crado ce qu'on fait du JavaScript. Nous aussi, on a des patterns, désolé de vous le dire, on peut aussi écrire du code propre. Et la façon dont on le fait, c'est en utilisant des patterns dits de modules. Et c'est ce qu'on fait ici, vous voyez, on a une fonction anonyme entière, et à la fin, elle est auto-exécutée. Ça veut dire que quand ce fichier JavaScript est exécuté, on part ce qu'il y a dedans, on l'exécute et on s'en va, on ne pourrit pas le scope global. Du coup, il faut trouver des moyens pour exporter finalement, c'est une forme d'encapsulation, exporter ce qu'on voit dedans vers l'extérieur. Et pour le faire, on va utiliser des notions de namespace. Donc, c'est pour ça que là, ce que je fais, c'est que je crée une collection de bindings, de la même manière que vous connaissez en C Sharp. L'intérêt de ces collections, c'est quand je pousse des informations dedans, automatiquement, elle va notifier l'interface graphique et je peux changer. Entre le nom interne ici qui est article list et le nom interne qui est item list, là-bas, la présentation des informations. Et au final, je définis un namespace public dans lequel il va y avoir ces données-là. Donc là, c'est une manière en fait, d'utiliser un type particulier pour les contrôles WinJS et de structurer mon code pour qu'il soit propre. Vous avez vu ici qu'on utilise le useStrict. useStrict, c'est ECMAScript 5 qui vous le donne. Si vous le mettez, ça évite de faire trop de bêtises en JavaScript. Par exemple, il va râler si vous utilisez des variables que vous n'avez pas déclarées. Donc ça vous évite de faire des trucs globaux sans avoir fait attention. C'est des nouvelles notions qui sont assez intéressantes. JavaScript évolue de plus en plus pour éviter tous les problèmes qu'on avait par le passé. Donc voilà, petit aparté. Une fois qu'on a fait ça, bah, j'ai préparé mes structures de données qui seront publiques. Bah, il faut aller mettre des informations dans cette liste. Donc là, je vais me connecter à travers une requête XML HTTP request vers l'URSS du blog. Donc je vais aller consommer ces données-là, voilà, et les présenter dans une application Windows 8. Il se trouve que la connexion au serveur prend un certain temps, donc c'est asynchrone. Comment gérer l'asynchronisme en JavaScript? En C-Sharp, vous avez les mots-clés async, await, qui sont très très propres. Le langage le plus propre aujourd'hui pour gérer l'asynchronisme, c'est C-Sharp 5. Il n'y a aucun doute là-dessus. Par contre, en JavaScript, on a un truc qui est pas mal, qui s'appelle les promises. Les promises, c'est, je sais que le traitement va prendre un peu de temps. Pour m'abonner finalement au retour, au lieu de me souscrire à un événement, je dis, bah, appelle-moi sur ces handlers-là un peu plus tard. Et du coup, on a un peu du code spaghetti, vous savez, parce qu'il y a plein de handlers qui passent dans tous les sens. On a ce qu'on appelle le promise, c'est-à-dire qu'à la fin de l'exécution, s'il retourne une promise, vous faites point zen et vous dites, bah, une fois que tu auras terminé ton traitement, bah, continue finalement. On enchaîne les blocs de code comme ça, soit avec des fonctions anonymes, soit avec des fonctions que vous aurez définies. Donc dans mon cas ici, je vais être rappelé sur cette fonction-là où j'aurai le flux RSS passé et je vais pouvoir continuer mon travail. Le travail va consister à filtrer le flux RSS. Alors ça n'a rien de très passionnant, hein, vous faites un Query Selector, il faut savoir que sur la réponse XML, hein, depuis 10 et dans les applications Windows 8, il faut faire des queries à travers des sélecteurs CSS. Donc vous pouvez passer des sélecteurs CSS pour récupérer les nœuds du XML qui est renvoyé, c'est ce que je fais. Et là, le côté cool de JavaScript, c'est que je peux créer des objets à la volée, dans lesquels je vais mettre le titre de l'article, un lien vers une petite image, le contenu de l'article en lui-même, et boum, je pousse ça dans ma liste que j'ai définie au-dessus ici. Et ça va automatiquement rafraîchir au fur et à mesure le moteur de layout. Bon, il me reste deux trucs à faire. C'est dire où est ma source de données et appeler ce code. Donc ce code, eh ben, il faut que je l'appelle une fois qu'il aura fini de construire tous mes contrôles. La construction de ces contrôles est asynchrone, prend du temps. Donc la manière de le gérer, c'est avec une promise. Je lui dis, bah, quand tu auras terminé, point zen, appelle-moi mon code de téléchargement de mon flux RSS. Et dans la partie HTML, pour l'instant, la liste view, elle ne sait pas quelle est sa source de données. Vous avez deux façons de définir la source de données, par code ou par déclaratif en HTML. Et là, vous faites data win option égale. Alors, je vais aller à la ligne pour qu'on voit mieux. Et là, vous avez. Alors, ça, vous ne pouvez pas l'inventer, il faut connaître la doc. Item data source, c'est une propriété. Et là, il faut que je trouve quelque chose qui soit public sur lequel m'enregistrer. Ça tombe bien, j'ai créé un namespace, vous vous souvenez, qui est public, qui s'appelle C9 data. Dans lequel j'avais créé un truc qui s'appelait item list, et dedans il y a un truc qui s'appelle data source. Donc j'ai bindé ma data source à ma liste avec tous les éléments qui vont venir du flux RSS. Dernier petit détail, il faut que je gêne ma liste à se dessiner. Et pour ça, un petit peu de CSS qui est. Je me souviens plus du nom du truc. Qui est un truc genre CSS, genre JSView CSS. Ça me paraît bien ça. Voilà. Qu'est-ce que je fais? Je vais viser mon contrôle WinJS. Je lui demande de prendre tout l'espace disponible. Il vit actuellement, vous vous souvenez, dans la deuxième colonne de ma grille. Donc il va prendre tout l'espace de la. Non, la deuxième ligne, par contre, de ma ligne. Et ensuite, pareil, ça, vous ne pouvez pas l'inventer. C'est une classe qui est positionnée sur le contrôle, .WinItem. Donc il faut lire la documentation ou alors il faut aller voir le DOM Explorer pour voir toutes les classes positionnées. Ça, c'est une classe qui est positionnée sur chacun des éléments de ma grille. Et je lui dis, bah, je veux qu'elle fasse par défaut 150 pixels par 150 pixels. Donc si je fais F5 et que j'ai rien oublié, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas codé propre. Hein. Ne faites pas ça en production, je ne dis rien à l'utilisateur, je suis en train de charger des données. Et vous voyez, la grille se structure au fur et à mesure des données qui reviennent. Et là, ça a l'air de rien, mais j'ai déjà le binding qui est fait, j'ai le JSON qui est bindé, donc pour l'instant ce n'est pas très beau, mais on va le formater. Et déjà, je supporte la souris, c'est-à-dire que si je fais bouton droit, je sélectionne des éléments, et au touch, la sélection se fait comme ça. Donc déjà, on gère pour vous le touch et la souris. Et vous avez vu, il y a un certain nombre de carrés qui sont positionnés. Ça, en fonction de la résolution, il s'occupe automatiquement d'afficher le bon nombre d'éléments. Il le calcule pour vous. Donc pareil, pas besoin de vous-même calculer la résolution dans laquelle vous êtes. C'est fait pour vous. Bon, pour l'instant, c'est très moche, j'en conviens. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle un template. Le template, c'est de dire au moteur de dessin, voilà le morceau de HTML que tu dois utiliser pour dessiner chacun des éléments. Donc ça, j'ai un truc déjà fait pour gagner du temps. Là, on utilise à nouveau cette notion de data win control, sauf que là, au lieu d'être une liste, on dit bah, ce morceau de HTML va servir à dessiner les éléments d'une liste. C'est un template. Et ce qui est cool, c'est que on a également un moteur de data binding, c'est-à-dire que le taille image ici, eh ben, on va lui dire que sa propriété va être définie par binding, en disant le data win bind, et la propriété source de mon image va être rempli par l'objet, la propriété sumnel que j'ai créé tout à l'heure dans le code. Vous savez, quand je faisais ma requête select, là, et que je crée mes objets JavaScript en mémoire, bah lui, automatiquement, va aller parcourir la collection mémoire, prendre la propriété thumbnail, l'associer à la propriété source de votre image, et automatiquement, du coup, toutes les images vont arriver comme un for each. Il va faire le for each pour vous. Et de la même manière, bah, je vais prendre le titre de l'article du blog et je vais le mettre dans la propriété inner text bah, d'un pauvre div qui est ici. Alors, il faut dire à nouveau à ce contrôle, bah, ne te dessine pas avec le truc moche par défaut, mais avec le template. Ça se fait pas là, d'ailleurs. Ça se fait ici. Vous rajoutez un truc qui s'appelle item template et vous lui donnez l'ID du template à dessiner. Donc moi, c'est ce truc-là. Vous pouvez le faire par code aussi, hein. Donc soit par déclaratif, soit par code. Et si je fais F5, ça devrait être moins moche que si c'était plus beau. Voilà. Donc là, c'est un peu plus joli. Par contre, ce n'est pas encore très bien structuré. Alors, pour démochifier une application, c'est un terme que j'ai créé, dont je suis assez fier, il faut aller dans Blend. Là, et Blend, il dit, bon, il y a eu des modifs, est-ce que tu veux que je recharge des modifs? Et là, il y a un truc qui devrait vous marquer, là, qui va dire, waouh! Attendez, on va tourner un petit peu. Et là, waouh! Wow. Ça vous marque, là. Qu'est-ce qui se passe? Il est en train d'exécuter l'application en live dans Blend. Ça veut dire quoi? Que je peux travailler sur des vraies données de production et je suis pas obligé de faire ce qu'on appelle du mocking. Vous savez, le mocking, c'est un terme que les développeurs XAML connaissent et qui fournissent des données fausses de design aux designers qui ressemblent à peu près à ce qui sera en production pour qu'ils puissent travailler sur quand même un minimum de données et pas en train de se projeter. Donc, il voudra des carrés de 150, ça devra faire ça. Là, je travaille sur les données live. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter quelques classes CSS pour faire des sélecteurs, enfin des sélecteurs CSS. Donc le premier, c'est viser mon template ici, et vous voyez en temps réel, il vous dit tous les éléments qui correspondent à ça dans le DOM. Et je vais viser aussi à l'intérieur de ce template. Quand je fais espace, il me dit, bah, je connais deux trucs là-dedans, un div et des images, donc bah, je lui propose de prendre les images. Voilà. Donc, je me crée des sélecteurs que je vais réutiliser un peu plus tard. Bon, pour l'instant, 150 pixels par 150 pixels, c'est pas super folichon. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la taille et on va passer par 250 pixels par 250 pixels. Vous voyez, ça commence à avoir une meilleure tête. Et ce qu'on peut faire également, c'est me dire, bah, je voyais qu'il y a des images qui ne sont pas tous à la même taille. Je peux sélectionner une image ici, par exemple. Et là, je vois automatiquement les règles CSS qui sont actuellement appliquées. Donc le winning, est-ce qu'il y a l'inline? On voit la feuille de style par défaut ici. Ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais les modifier le sélecteur que je viens juste de créer ici. Donc je lui dis, bah, je veux travailler sur le sélecteur global. Et bien sûr, quand je vais retravailler l'image, bah, automatiquement, il va appliquer la classe sur toutes les autres images. Donc ça, c'est assez simple. Alors au final, le designer va dire, mais non, t'es bête le développeur. Moi, pour que ça soit beau, il faut que ça soit 234 pixels par 165. J'ai abandonné l'espoir de comprendre les designers. Je fais OK, effectivement, c'est plus joli. Et ce qu'on va faire également, c'est qu'on va dire au template bah, d'avoir dans le layout, je vais loquer ici, je veux 8 pixels tout autour. Voilà, ça commence à donner un peu d'espace. Et pour finir, pour supporter correctement le langage ex-métro qu'on n'a plus le droit d'utiliser, mais que tout le monde utilise encore, c'est qu'il faut s'aligner ici le contenu sur la première lettre du W à 120 pixels. Vous ne pouvez pas coller vos éléments sur la gauche, c'est très mal. Donc pour pouvoir sélectionner la zone de dessin, pareil, il y a un sélecteur qui s'appelle fait point win, et là l'intelligence vous aide, si vous ne connaissez pas, il y a un truc qui s'appelle surface, qui est la surface de dessin, et vous voyez qu'il sélectionne du coup toute cette zone-là, et cette surface de dessin, bah, du coup, pour qu'elle soit à 120 pixels par rapport à la gauche, vu que je viens de rajouter 8 pixels de marge pour ceux qui suivent, ça fait 120 moins 8. Calcul difficile, le premier qui trouve, il gagne rien, parce que j'ai rien emmené. Ça fait 112 pixels. Je sauvegarde l'ensemble. Je retourne en Visual Studio, qui, attention, il se passe un truc bizarre. Hop. Et là, ça arrive, et je commence à avoir une liste qui commence à avoir la tronche, et qui sélectionne, je peux sélectionner des éléments. Bon, l'étape d'après, c'est je clique sur un truc et je vais dans la vue détail. Pour faire ça, un petit peu de code JavaScript et surtout un container. Alors je fais la version mâle. Ne faites pas ça. Ces gens sont des professionnels. Ne faites pas ça à la maison. Ce que je vais faire, c'est la technique dite de la démo. Vous savez, nous, on est des évangélistes, donc on fait de la démo, et c'est pas forcément ce qu'il faut faire en production. Donc, je vais prendre un autre div, je vais prendre le contenu sur lequel je vais cliquer, je vais le mettre dans ma div, et je vais m'amuser à en cacher une et en afficher une autre, pour simuler le fait que je navigue. Mais je navigue pas du tout, je suis toujours dans la même page. La bonne façon de faire, c'est d'utiliser un framework de navigation qui sont utilisés dans les templates par défaut, mais pour simplifier la démo, ne faites pas ça. Je dis ça parce que j'ai un client qui est parti en production comme ça, et qui s'est retrouvé avec 100 divs dans l'ensemble son truc, qui s'est amusé à cacher, enlever. Et c'était une horreur à maintenir du coup. Il m'a dit, tu crois que ça va être compliqué de refactoriser? Connais la notion de jeter tout et recommencer? Ouais, on est proche du concept quand même. Puis j'ai laissé se débrouiller, puis il s'est pendu. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on va s'abonner du coup au fait que je vais cliquer sur un élément de la liste et le bouton back. Donc pour ce faire, j'ai la déclaration de mes handlers. C'est assez simple, ça c'est du JavaScript assez classique. Je récupère ma liste, qui est un contrôle WinJS, et je vais m'abonner sur un événement qui s'appelle ItemInvoke. C'est cet élément ItemInvoke il existe parce que c'est un contrôle WinJS qui a été géré par le process all. Et en fait, il est notifié quand vous cliquez sur un des éléments de la liste. Et quand vous cliquez sur un des éléments de la liste, il va vous renvoyer, tu as cliqué sur l'élément 4. À toi de savoir ce que c'est. Et ensuite, le bouton clic, c'est un bouton classique, donc je vais revenir en arrière. Donc maintenant que j'ai ces handlers, je vais gérer le code associé. Donc le premier est extrêmement simple. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, je cache la vue détail et j'affiche la liste principale. C'est assez moche, hein. Et dans l'autre, je fais l'inverse. Et la manière de récupérer l'article sur lequel j'ai cliqué, j'ai ma collection en mémoire, qui s'appelle article list, et je récupère l'élément là où l'utilisateur a cliqué, qui est fourni par l'event handler. Et je récupère un événement et je mets les informations dedans. Alors, quelle heure il est là? Il me reste encore un peu de temps, c'est jusqu'à 35, je crois. Donc, hein? Il me reste 17 minutes. Ok. Ce qu'on voit ici, c'est que j'ai un set inner HTML unsafe. Donc, je fais une petite aparté sur la sécurité. Si vous êtes développeur web, le seul truc auquel vous devez faire attention, c'est qu'ici, on travaille dans une sandbox. On vous en a parlé en plénière, en keynote, c'est-à-dire que vous travaillez dans un contexte de sécurité particulier. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez vu que vous êtes pas dans le navigateur, mais vraiment dans un truc qui accède au système potentiellement. On peut accéder à WinRT, aux fichiers, on peut casser des trucs. Du coup, si vous faites une requête vers le web et que vous dites, ah, moi je suis un petit malin pour éviter de mettre à jour mon application dans le store, je vais télécharger du HTML dynamique de mon serveur web et bien je vais l'injecter dans mon application, comme ça, la mise à jour, je le fais côté serveur et jamais je pousse la mise à jour côté client. Mais le problème, c'est qu'on empêche l'exécution de code qui vient du serveur, parce que c'est le mal. Le web public, c'est forcément le mal. Par défaut, c'est dangereux. Donc, si vous avez une tentative d'injection de script dans votre application, on pourrait la corrompre. Donc, par défaut, ce qu'on fait, c'est que si vous essayez de manipuler une propriété, par exemple inner HTML, et de récupérer du HTML qui vient du web public, vous êtes dans un contexte de sécurité différent. On vous empêche de le faire. Vous allez avoir une exception qui est levée. Alors, il y a une ligne de code qui dit, fiche-moi la paix, je sais ce que je fais. Qui s'appelle winjs.utilities.setInnerHTMLUnsafe, qui est assez clair, hein, je pense, qui vous dit, là, tu mets les pieds dans un truc dangereux, et là, vous récupérez malgré tout le HTML qui vient du public. Par contre, il vous empêchera malgré tout d'exécuter une librairie JavaScript qui vient du web public. C'est juste pour récupérer du HTML qui est potentiellement dangereux pour le faire. Donc, ayez juste conscience de ça. On a deux contextes de sécurité quand on fait du HTML. Le HTML5, on va dire, qui accède à tout le système, qui est protégé par défaut. Si vous voulez exécuter finalement un site web public dans votre application, vous avez la notion d'iframe qui existe, comme vous le connaissez dans le web. Vous pouvez mettre un iframe et cet iframe, il va s'exécuter dans le contexte de sécurité dit public, dans lequel vous aurez plus accès à WinRT, vous pourrez plus faire du partage d'informations, ce genre de choses. Mais c'est souvent le cas lorsqu'on fait de la cartographie. Vous voulez mettre un Bing Maps ou un Google Maps, vous mettez un iframe dedans et du coup, il s'exécute dans le contexte de sécurité public. Et la manière de communiquer entre votre application, on va dire privée et le public, ça se fait par envoi de message, avec post message. Par exemple, vous voulez récupérer une information de votre base de données locale et faire un petit truc sur la cartographie, vous récupérez les coordonnées GPS, vous envoyez une chaîne de caractères à l'iframe, et l'iframe, dans le code JavaScript de l'iframe, vous positionnez ça au bon endroit. Donc faites attention au contexte de sécurité, c'est peut-être le piège dans lequel vous allez tomber lorsque vous ferez du dev, si vous venez du monde du web. On est ici dans une sandbox. Donc voilà, si je fais ça normalement, je vais pouvoir aller sur la vue détail. Et hop, j'arrive. Et qu'est-ce que vous remarquez? Là, vous êtes horrifié normalement. La marge à gauche, oui, effectivement. Je ne pensais pas à ça en premier. C'est brut de fonderie. C'est pas fast and fluid. On vous a saoulé avec le fast and fluid. Fast and fluid, c'est tout bête. Vous voyez, le fait de passer d'une page à l'autre. On a remarqué que les ergonomes, que si vous rajoutez une légère transition, alors je dis bien légère pour nos amis et développeurs et développeuses, c'est-à-dire qu'il faut suggérer la performance à l'utilisateur. Et des études montrent que si jamais vous faites une légère transition pour afficher l'élément, l'utilisateur a l'impression que votre application est plus réactive. Hein, c'est bête, c'est comme ça. Alors du coup, vous avez deux choix. Vous allez coder vous-même la transition. Je vais vous montrer comment ça se passe. Et souvent, ce qui se passe du coup, et bien, vous arrivez ici dans le CSS, puisqu'on a un truc qui s'appelle CSS Animation, et vous dites, je vise un de mes éléments, et c'est parti, et puis du coup, je vais faire des transitions. Alors du coup, je tape transition, voilà, et puis vous commencez à taper votre truc. Qu'est-ce qui se passe en final? Vous avez un truc qui arrive en faisant de la 3D avec un double flip arrière et des logos en flamme, et le développeur, il montre qu'il a fait une animation. Il est content. Il montre ça à l'ergonome qui dit, ouais, effectivement, tu t'es fait plaisir, mais c'est immonde. Alors du coup, vous avez une autre solution, c'est qu'on a pensé à vous, c'est qu'on a précodé certaines animations qui se trouvent dans winjs.ui.animation. Il y en a une qui s'appelle Underpage, et vous lui donnez l'élément animé. Moi, ça va être article list, et on va faire l'autre animation derrière. Et si vous regardez le code de WinJS, qu'est-ce qu'il fait derrière? Il crée des classes CSS, il fait du CSS 3 animation ou transition pour vous. Donc voilà, donc c'est une première solution que je vous invite à faire. Si vous avez des designers ou des gens qui savent faire de l'animation, peut-être qu'ils seront à faire des trucs jolis. Et maintenant, vous avez vu la différence? La petite transition? Vous n'avez pas l'impression que c'est plus fluide, non? Donc vous ne faites pas partie du bon panel, alors. Bon, en faites-le quand même. On va retourner dans Blend. Et là, vous me disiez tout à l'heure, il n'y a pas la marge à gauche tout à l'heure. Donc, il faut corriger le design. Ah, mais je suis bien embêté. Moi, je fais comment pour aller dans l'étape d'après? Et c'est là où Blend est une tuerie. C'est un terme technique. Vous cliquez sur ce bouton-là qui est le mode interactif et vous simulez l'usage de votre application. Je clique là-dessus et je me dis, je veux figer finalement le design à ce niveau-là. Donc ça, c'est super pratique parce que comme on a les données live et qu'on travaille vraiment sur une application qui est exécutée, j'ai commencé à pouvoir travailler là-dessus. Donc je vais vite finir ça pour passer ensuite à la deuxième démonstration. Donc je vais rajouter un sélecteur ici sur Article Content. Voilà, pour l'instant vous avez vu, il déborde un peu de partout, donc je vais lui mettre du 100% dans un premier temps. 100%, voilà. 100%. Voilà. Donc maintenant, il fait bien le bord. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est gérer la marge à gauche. Donc on va le faire avec un padding de 120 pixels. Toc. Sauf que si vous regardez bien, du coup, le problème ici, c'est qu'il déborde un peu trop de l'écran. Donc j'aimerais bien lui dire, fais 100% de la largeur moins 120 pixels. Et en CSS3, il y a un truc qui s'appelle le calque, qui est un sélecteur, qui est supporté depuis longtemps par IE. C'est un des rares trucs qu'on supporte depuis longtemps par rapport aux copains. Donc vous tapez calque, 100%, et vous faites moins 120 pixels, et boum, du coup, vous avez pile poil ce que vous voulez. Donc ça, c'est pratique. Ce qui me reste à faire, c'est faire du multicolonne. L'œil est plus adapté à lire des petites lignes. Ça vient du media print, ça. Et ça, c'était assez dur à faire en CSS3 avant, enfin en CSS. Là, c'est extrêmement simple à faire en CSS3. Vous dites, je veux des colonnes qui font 480 pixels de large, avec 80 pixels de largeur entre chacune, et boum, ils vous formatent le layout. Et ce qui me reste à faire, c'est supporter la navigation. Vous pouvez naviguer que dans un seul côté dans Windows 8. Soit en horizontal, soit en vertical. Vous ne pouvez pas aller dans les deux sens en même temps. Sinon, on ne comprend plus rien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gérer l'overflow. On va dire en X, ça sera auto. Et en Y, je le cache. Je ne veux pas qu'il puisse naviguer sur l'axe des Y. Je sauvegarde l'ensemble. Je retourne dans Visual Studio. Et boum, du coup, on a bien le support de la navigation sur les articles. Oui, donc c'est assez rapide, parce qu'en fait, ce qui vient du web, c'est du HTML. Et du coup, on discute le même langage. C'est l'intérêt de faire une application en HTML5. Et voilà, on a fait une application de zéro assez rapidement. Alors, c'est pas prêt pour la production, pour quelle raison? J'utilise pas le framework de navigation, je vous l'ai dit, ce qui n'est pas propre. Et je ne fais pas encore de vue snap. La vue snap, je ne la gère pas du tout. C'est-à-dire qu'il se passe n'importe quoi. Pour le faire bien, il faudrait que je gère la vue snap en travaillant sur la media queries, en revoyant le CSS pour savoir comment je présente l'information dans ce mode-là. Voilà. Donc il vous reste deux, trois trucs. Supporter le splash screen, parce que pour l'instant, j'ai le splash screen par défaut, mais on va assez vite, vous avez vu, pour créer une application. Bon, pour l'instant, on n'a fait que du WinJS pur. Et il nous reste 15 minutes ici pour voir la partie WinRT. Donc pour faire WinRT, on va accéder à la caméra et je vais vous montrer comment ça marche. On va faire un nouveau projet et on va l'appeler TechDez Suisse Caméra. Je suis très inspiré aujourd'hui. On va commencer par le HTML. Alors le HTML, du coup, pour afficher la caméra, il faut une vidéo. Pour gérer la vidéo en HTML5, on a le tag vidéo. Donc la première étape, je vais avoir un div global que je vais appeler application. Et dedans, je vais mettre une vidéo, le tag vidéo, qui supporte donc des vidéos format H264 chez nous. Et je vais l'appeler live-preview, par exemple. Voilà, côté HTML, c'est terminé pour l'instant. Et on va du coup dans JavaScript. JavaScript, je vais faire une petite fonction d'initialisation qui va aller récupérer certains contrôles. Donc ces contrôles-là, ce qui m'intéresse, c'est le live preview. Je vais récupérer un pointeur, si on veut, sur mon élément qui est dans le DOM. Je fais un getElementById. Du coup, il faut que je déclare ça. Tant que je suis dans la déclaration, je vais rajouter un autre truc dont je vais avoir besoin, qui est le Media Capture. Voilà. Et maintenant, je vais appeler une autre fonction que je vais écrire qui s'appelle Start Camera, pour démarrer la caméra. Hop. Pour démarrer la caméra, il faut que je crée un nouvel objet qui vient du monde WinRT. À quel moment vous savez que vous faites du WinRT? C'est quand vous faites Windows. Quelque chose. Windows. Vous êtes dans WinRT. Et le même code va fonctionner que vous soyez développeur C Sharp. C'est peut-être moi qui fais clignoter le truc. C Sharp, C++ ou JavaScript. C'est exactement les mêmes API. Donc là, il n'y a pas de différence du tout entre les développeurs. Et moi, il y a un truc, c'est dans Media, dans Capture, et un truc qui s'appelle Media Capture. C'est pour récupérer des choses, micro, caméra, etc. Donc j'instancie cet objet. Et vous voyez très bien que c'est la même ligne de code. Vous copiez-collez ça dans du C-Sharp, ça marche pareil. Par contre, il faut initialiser la caméra. Initialiser la caméra, c'est un truc qui prend du temps. Donc c'est asynchrone, puis ça prend plus de 50 millisecondes. Donc j'ai une méthode qui s'appelle initialize async. On est assez malin. La convention, c'est dès que c'est asynchrone, ça s'appelle async. C'est pas très compliqué. Ça prend du temps. Donc comment je gère le rappel avec une promise? Donc je fais zen dans ces cas-là. Rappelle-moi sur ce code. Et là, c'est ça qui est cool avec JS, c'est qu'on lui passe une fonction de retour, un anonyme, là, ici. Et maintenant que j'ai ma caméra qui est initialisée, et ben, faut que j'envoie le flux de la caméra dans mon tag vidéo. Mon tag vidéo, je l'ai récupéré ici, live preview, il a une propriété source. Et ce que je vais faire, c'est que, ça, je ne sais pas si vous connaissez, create object URL, ça vient du monde du web aussi. On peut créer une URL vers un élément de type image ou vidéo, ça va créer en fait une URL en mémoire. Si vous voulez, vous donnez un tag image ou vidéo, et ça va permettre de faire le lien entre justement le flux de la caméra et le tag vidéo. Donc ça existe également dans le web, on ne le voit pas encore très fréquemment puisque le support de la caméra n'est pas très répandu dans les navigateurs. Mais en gros, je lui dis, crée-moi une URL de données à partir de mon objet ici caméra. Et hop, il va faire le mapping en mémoire pour vous. Et ensuite, bah, live preview, il a une fonction qui s'appelle play pour jouer la caméra. Si je fais F5 ici, ça ne va pas marcher. Ça ne devrait pas marcher. Ah oui. Alors il y a un truc très important que vous écrivez du code, mais c'est de l'appeler. On est en train de travailler sur des algos en restant poli avec l'utilisateur. T'aurais pas oublié de faire un petit truc? Moi je dis ça, je dis rien. Voilà ce qui se passe. Il dit, t'essayes d'accéder à la caméra. Et accéder à la caméra, c'est un truc mal si l'utilisateur il n'est pas au courant. On n'a pas envie que vous installiez des applications et en train de vous filmer, et puis peut-être que c'est le matin, vous n'êtes pas encore tout à fait habillé, et que prend des photos de vous en train d'utiliser l'ordinateur. Donc c'est un truc super sensible pour la sécurité. Donc il faut demander l'autorisation à l'utilisateur. Pour demander l'autorisation à l'utilisateur, vous êtes dans le manifeste, dans les capacités, et là vous avez la liste des trucs que vous pouvez demander à l'utilisateur. Et moi je demandais l'accès au microphone, à la webcam, et également au Picture Library. J'en aurai besoin après. Donc j'accède à la caméra, Picture Library, je sauvegarde. Du coup, on passe par ce qu'on appelle un mécanisme de broker. Maintenant, si je fais F5, j'ai déclaré mon intention de vouloir l'utiliser. Et là, c'est Windows 8 qui prend le relais. Il met votre application de côté en disant l'application souhaite accéder à la webcam, est-ce que toi, utilisateur, tu lui donnes l'accès ou pas? Donc, si vous dites oui, dans ces cas-là, votre application pourra accéder aux API WinRT qui sont sensibles. Et là, on retrouve du coup ma bouille sur l'écran. Donc, cette démo, l'unique intérêt, c'est que vous me voyez sur l'écran, c'est un peu mégalo. Et si vous voulez changer les settings, si vous êtes dans les settings par défaut de l'application, vous pouvez à n'importe quel moment désactiver l'utilisation de la webcam. Si vous changez d'avis en disant cette application, je ne veux pas qu'elle utilise ma webcam, désormais vous pouvez le changer. Alors comment mettre cette vidéo en plein écran? Alors ça c'est simple, c'est du CSS. On va commencer par mettre le body à 100%, la hauteur à 100%. On va viser notre élément application ici. Et on va faire la même chose, 100% partout. Et la façon simple de centrer un élément dans l'application Windows 8, comme on a plein de trucs CSS3 qui sont cool, c'est de changer le display en MS Grid, le truc dont je vous parlais dans l'autre démonstration, non pas Flexbox, MS Grid, et de créer un tableau en fait qui n'a qu'une seule ligne et qu'une seule colonne, mais qui prenne toute la largeur. Voilà, je vous l'ai fait à l'ancienne. En faisant ça, en fait, vous allez mettre l'élément en plein écran et le centrer verticalement, horizontalement, quelle que soit la résolution ou le ratio de l'écran. Si je fais F5, voilà, donc je suis en plein écran. Bon, c'est moche, mais c'est moi, je suis désolé. Hop. Donc maintenant, on va juste prendre une photo lorsque je vais cliquer, et ça conclura ces démonstrations. Je vais vous montrer l'application en global. Pour prendre une photo, il faut peut-être créer un répertoire quelque part sur le disque dans la partie Picture Library. Donc Picture Library, vous savez, c'est cette partie-là. Je vais supprimer ce répertoire pour l'instant dans lequel je vais aller. Il y a plein de photos de moi d'ailleurs, c'est quand même un peu inquiétant. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord créer le répertoire qui va servir à stocker vos photos. Là, je fais windows.quelquechose, donc j'utilise WinRT. Donc je veux récupérer un accès vers la Picture Library. Donc ça, je l'ai déclaré avant, vous vous souvenez, dans le manifeste, parce que vous ne pouvez pas écrire sur le système de fichiers d'utilisateur, même là, sans qu'il soit au courant. Et ensuite, je vais créer un répertoire. Alors, tout est asynchrone. Tous les I/O sont asynchrones, parce qu'on ne sait pas si vous avez le dernier SSD de la mort ou un vieux disque magnétique classique. Donc, c'est asynchrone. Donc, je fais une création asynchrone d'un répertoire en lui disant, s'il existe déjà, tu l'ouvres plutôt. Une fois que c'est fini, je récupère un pointeur vers ce folder et je store la référence de ce folder. Donc, du coup, il faut que je déclare cette variable. Varpix. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je veux un code qui va s'occuper, quand je vais toucher mon élément vidéo, je vais prendre une photo. Alors ça se fait avec ce code-là. Et pour l'appeler, je vais vous parler un peu du code, pour l'appeler, du coup, je vais m'abonner à l'événement clic. Lorsque vous allez cliquer sur la vidéo, où il y a la caméra, vous appelez ce code-là. Ce code-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer une photo, un fichier de manière asynchrone à nouveau, en générant un fichier unique. C'est-à-dire que s'il existe déjà, il va rajouter 02, 03, 04, 05. Une fois qu'il a fini la création, vous avez un accès vers ce fichier. Vous lui dites, moi, je souhaite créer un fichier JPEG. Donc, prends les propriétés par défaut fichier JPEG. Et vous demandez à l'objet qui est en train d'afficher la caméra de créer une image sur le disque de manière asynchrone. Alors ça, c'est capture photo to storage file async, comme j'arrive jamais à m'en souvenir, je vous ai mis ici le truc directement fait. Et une fois qu'il aura terminé, je vais juste faire un pop-up, c'est bon, j'ai fini de sauvegarder l'image. Donc si je fais F5, là si je clique ici, voilà, il a sauvegardé. Et du coup, si je vais dans Picture, ici, il a créé un répertoire, et là, on ne va pas revoir ma tronche en plein écran, mais c'est la même photo que tout à l'heure. Vous voyez, depuis du code JavaScript, vous pouvez utiliser WinRT pour pouvoir accéder à l'ensemble de la machine. On utilise au maximum les standards du web lorsqu'on peut, CSS3, HTML5. L'accès à la caméra, aujourd'hui, c'est une spécification qui est trop instable pour qu'on l'ait implémenté, donc on passe par WinRT. Avec WinRT, vous pouvez accéder à l'accéléromètre, au NFC, au GPS, à tout ce qui est matériel, en fait, vous avez accès à travers WinRT. Pour tout le reste, c'est du code HTML5 JavaScript que vous pouvez utiliser de manière classique. Alors, cette application fait partie d'une démo plus complète que j'ai faite sur mon blog, c'est une série. Parce que j'ai fini par faire la même chose où on peut soit prendre une photo et je vais faire un petit effet de slide en faisant du CSS3 animation, vous voyez, pour montrer à l'utilisateur qu'il a pris une photo. Vous pouvez enregistrer une vidéo. Voilà, j'ai enregistré une vidéo, coucou. Hop, ça le met. Donc je vais prendre plusieurs photos pour vous montrer un autre truc. Et je l'ai mis dans un flip view. C'est-à-dire que dans le flip view, vous avez vu en plein air, pour l'instant, j'ai utilisé qu'un template, on va dire déclaratif, mais vous pouvez utiliser un template avec une fonction JavaScript. Donc en fait, dans mon flip view, en fonction du type d'élément que je suis en train d'afficher, soit j'affiche la caméra avec les contrôles ici, soit j'affiche juste une image, soit si c'est une vidéo qui était stockée, bah, je rajoute le bouton play pour jouer à la vidéo. Donc vous pouvez customiser les templates si vous voulez de cette manière-là. Et ce que j'ai fait au final, c'est que j'ai fait du traitement d'image dans la barre ici. Et j'ai trois traitements d'image. C'est pour vous montrer les performances que vous pouvez avoir au fur et à mesure. Le premier traitement d'image, il va appliquer un effet de blur en utilisant JavaScript par défaut, qui est MonoThreadé et une librairie que je connais. Et il a mis 702 millisecondes pour le faire, pour traiter l'image. Si je prends une autre image, celle-ci fait l'application du filtre de blur en utilisant des web workers. Web workers, je ne sais pas si vous connaissez, c'est la possibilité de faire l'équivalent de multithreading, utiliser plus de GPU en JavaScript. Donc même en JavaScript, on peut avoir accès au multiprocesseur. Et là, j'ai gagné, j'ai divisé le temps par deux, j'ai un dual processeur. C'est pas toujours comme ça, hein, le parallélisme, hein, mais là, dans ce cas-là, ça tombe bien. Et pour finir, comme David, il sait faire du C++, et que même si je suis dans des applications JavaScript, je lui dis, tiens, toi qui maîtrises DirectX, Direct2D, tous ces trucs auxquels je ne comprends rien, tu pourrais me faire un composant en C++ qui, au lieu de discuter avec le CPU, discute avec le GPU. Et le GPU, il a 12 cœurs, lui, qui sont nettement plus rapides et spécialisés. Donc en fait, il avec les mécanismes de shader, il va envoyer l'image au GPU qui va traiter l'image et qui va me la renvoyer. Et c'est ce que je vais faire. Du coup, là, je vais appeler le composant C++ depuis JavaScript, ce qui est possible, hein. Et là, je suis descendu à 100 millisecondes. Voilà, on voit l'évolution des performances. Gardez ça en tête. Si à un moment donné, vous êtes bloqué sur les perfs, sur des traitements très particuliers, dans Windows 8, vous avez toujours la possibilité d'appeler un composant qui serait plus rapide en C++, qui a accès au GPU. Alors, c'est très très spécifique comme cas, hein, mais la plupart du temps, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Donc, on retourne sur la présentation et je finis. Il me reste 2 minutes. Alors, pour aller plus loin, je vais rajouter l'URL de David. Comme c'est mon chef, c'est toujours pareil, c'est toujours embêtant. Donc c'est blogs.msdn.com/je-suis-modeste-eternal-coding. Donc sur mon blog, vous retrouvez deux séries de tutoriaux pour refaire l'application de RSS. Il y a deux articles à lire et avec la description complète. Et pour faire l'application caméra, là, il faut 4 articles. C'est un peu plus long, l'application caméra, parce que j'utilise pas mal de notions. L'application de carte magique, vous pouvez la refaire de zéro sur l'URL du blog de David, Eternal Coding. Et il y a un truc qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est dev.windows.com. Il y a 200 samples qui sont présents, que ce soit en JavaScript, en C#, en C++. S'il n'existe pas, si vous êtes développeur C++ ou C#, s'il n'existe pas, souvent il est présent en JavaScript, c'est pas grave, vous avez vu, les appels de WinRT, ce sera les mêmes pour vous. Donc vous prenez le code JavaScript, vous copiez-collez, vous le typez, si jamais vous êtes dans un langage typé, ça marche. Et nous, la plupart des applications qu'on a fait, des développeurs avec lesquels on travaille, ils vont là-dessus, c'est plein de petits exemples bien faits, et je pense qu'on préfère tous un bon exemple de code qu'une doc mal faite, et ben, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc voilà, ça finit. Si vous avez des questions, on a 1 minute de questions. Sinon, je serai disponible après dans les pauses. Oui? Ouais. Bien sûr. Bien sûr. Vous pouvez utiliser jQuery. Le seul truc qu'il faut faire, c'est que jQuery, des fois, par exemple jQuery UI, il y en a certains qui ont utilisé jQuery UI, il fait de l'injection dynamique dans le DOM avec du JavaScript. Et ça peut être rejeté. Donc des fois, il faut un peu modifier les librairies. Donc on a travaillé avec les équipes jQuery pour avoir une version qui va sortir, qui marche bien dans Windows 8. Les versions actuelles marchent déjà bien, mais il y a certains trucs de temps en temps qui ne le font pas. Mais on a des gens qui ont fait du jQuery dans les applications Windows 8 dans le store. Mais je vous invite vraiment à utiliser WinJS plutôt pour l'expérience, vous avez vu avec le binding, etc. Bon, ensuite, il y en a qui ont utilisé plutôt Backbone ou d'autres frameworks qui leur plaisaient le plus pour avoir le maximum d'abstraction possible sur la plateforme Windows 8 pour réutiliser le code sur un iPad ou un Android ou donc du PhoneGap, ce genre de choses. Oui? parce qu'il y a un support TypeScript de prévu. Alors pour ceux qui ne connaissent pas TypeScript, selon moi, il y a deux clochers. Il y a les développeurs JavaScript initiaux qui sont très contents de leur langage et qui se foutent royalement de l'opinion des développeurs Java et C Sharp. Et il y a les développeurs objets qui détestent JavaScript parce qu'il n'est pas typé et que c'est basé sur le prototype. Pour essayer de réunir les deux mondes, on a proposé TypeScript, effectivement, qui permet d'écrire très proche de JavaScript avec du typage. Et il va vous générer du JavaScript propre qui utilise le prototype. Voilà. Moi, je ne suis pas super fanat, mais ça, c'est chacun son opinion. Ça a été fait par Anders, qui est le gourou chez Microsoft, qui a créé C Sharp et qui a créé Delphi, bon, et Pascal. Rien que ça, tranquille. Et pour l'instant, on n'a pas de template prévu qui vont utiliser TypeScript. Vous pouvez utiliser TypeScript pour faire des applications Windows 8, puisqu'en fait, au final, ça génère du JavaScript. Mais on n'a pas encore mis d'outillage dans Visual Studio pour vous aider. Franchement, je ne sais pas encore si ça va arriver ou pas. Je pense qu'on l'envoie pour le tester un peu et voir les réactions de la communauté. Par exemple, quand Dart est sorti chez Google, les développeurs JavaScript, on va dire pure souche, ont détesté Dart parce qu'ils le voient comme une tentative de tuer JavaScript à terme, alors que eux, ça les intéresse pas. Donc on a les mêmes retours un peu moins violents sur TypeScript, mais parce qu'il y a vraiment plus proche de JavaScript dans sa conception. Mais on attend de voir les retours avant peut-être de diffuser large bande. Ce qui est intéressant avec TypeScript, c'est qu'il donne par contre une vision de ce que sera ECMAScript 6. C'est-à-dire qu'ils travaillent sur les travaux en cours pour l'implémenter dans TypeScript. Donc moi, je le vois surtout pour ça. C'est à terme, on aura de nouveaux trucs. Vous savez, JavaScript, il a quand même besoin d'être. Il y a quand même deux, trois trucs. On vient du monde C Sharp comme moi, où on se dit de temps en temps, ce serait cool d'avoir ça dans le langage. Donc on est en train de travailler dessus dans ECMAScript 6. Et TypeScript vous propose une espèce de vision vers le futur là-dessus, quoi. Alors, désolé pour la réponse un peu longue, mais c'est un sujet un peu particulier. D'autres questions? Bah, je vous libère, alors vous verrez du DirectX après si vous voulez. Merci.